France Culture.
L'Europe n'entend pas se laisser faire entre la riposte aux droits de douane imposés par Donald Trump, les annonces en cascade d'investissements dans l'industrie de la défense et de l'armement, et puis l'annonce d'un plan de réarmement de 800 milliards d'euros et le retournement inattendu en termes de dogme budgétaire. La vieille Europe montre qu'elle sait dépoussiérer ses institutions et a encore le bras long et surtout armé. Car l'Union européenne, ce sont 27 États membres qui sont loin d'être toujours d'accord, surtout lorsque l'on parle budget, mais ce sont aussi des outils qui pourraient faire leur preuve dans ce contexte bouleversé. Une banque centrale, une banque d'investissement, une capacité aussi à mettre sur pied des plans, qu'ils soient de relance ou de financement. L'accent mis aujourd'hui sur la défense ouvre-t-il la voie à une réflexion plus profonde sur ce que peut, sur ce que pourrait l'Union européenne dès lors qu'elle le veut? Une question qui se pose d'autant plus que derrière les déclarations, un enjeu majeur pointe son nez, celui du financement des investissements décrits partout comme des murs. Des murs qui sont vus comme des obstacles pour certains et comme les fondations sur lesquelles construire l'Europe des décennies à venir pour d'autres. Relance versus protectionnisme, l'Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions interventionnistes? C'est la question que nous allons poser jusqu'à 15h dans cette table ronde d'actualité programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Dalia.
Ursula von der Leyen, le 21 janvier 2025.
We do not lack capital.
Nous ne manquons pas de capitaux. Ce qui nous manque, c'est un marché des capitaux efficace qui transforme l'épargne en investissement. Et c'est pourquoi nous allons créer une Union européenne de l'épargne et des investissements avec de nouveaux produits d'épargne et d'investissement européens, de nouvelles incitations à l'investissement en capital risque, et un nouvel élan pour permettre aux investissements de circuler librement dans toute notre Union.
Emmanuel Macron, le 5 mars 2025.
À Bruxelles demain, lors du Conseil extraordinaire qui réunira les 27 chefs d'État et de gouvernement avec la Commission et le président du Conseil, nous franchirons des pas décisifs. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. L'Europe de la défense, que nous défendons depuis 8 ans, devient donc une réalité.
François Villeroy de Gallo, le 14 mars 2025.
Si je regarde néanmoins dans la durée, le fait qu'en Europe il y ait beaucoup d'épargne, ça c'est un atout européen. Et le défi que nous allons avoir, ce qu'on appelle l'union pour l'épargne et l'investissement au sein de l'Europe, c'est d'utiliser mieux cette épargne pour l'innovation, pour l'investissement en Europe. Et ça peut être la défense aussi, même si la défense relève in fine de financement public et pas d'épargne privée. Ça ne peut pas être et ça ne doit pas être le retour du quoi qu'il en coûte. Ça doit être, et c'est l'espoir que je manifestais, le réveil militaire de l'Europe, mais aussi son réveil économique et financier. Et surtout, ne séparons pas les deux. Parce que la meilleure réponse à votre question, c'est de financer ce surcroît de dépenses par un surcroît de croissance européenne et française.
Et trois invités sont autour de cette table ronde d'actualité aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Éric Monnet, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'École d'économie de Paris et membre du CEPR, le Center for Economic Policy Research. Bonjour.
Bonjour.
Jezabel Soubéran, vous êtes également avec nous en studio. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes économiste maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Vous êtes la co-autrice aussi, il faut le mentionner, avec Pierre Delandre et Augustin Cerciron, d'un ouvrage intitulé « Le pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société » qui est paru en janvier 2024 aux éditions Les Liens qui libèrent. Et enfin, Jérôme Krill, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste également directeur du département des études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et professeur à l'ESCP. Alors, Jezabel Coupé-Soubéran, on vient de l'entendre dans les extraits qui viennent d'être diffusés. L'heure est à la mobilisation au niveau européen, une mobilisation qu'on pourrait un peu qualifier de deux ordres avec deux temporalités assez différentes. Une plus ancienne qui vise à restaurer sa compétitivité, notamment vis-à-vis des États-Unis, et dans un cadre un peu plus nouveau, on va dire, lié aux récentes tensions géopolitiques enclenchées par Donald Trump, cette idée d'un réarmement plus global. Est-ce qu'on se situe à travers ces deux prismes-là, ces deux temporalités-là, et la façon dont l'Europe y répond Japon. Est-ce qu'on se situe, Isabelle Coupé-Soubéran, à une forme de tournant pour l'Union européenne ?
Oui, je le crois. Je pense qu'on est vraiment pour l'Europe dans une sorte de d'épreuve du feu. Certains parlent de crise existentielle. Il me semble que l'expression est plutôt bien choisie. Et c'est effectivement une croisée de chemin parce que il s'agit de savoir. Au fond, si l'Europe simplement, eh bien, continue de fonctionner en ordre dispersé et subit l'assaut américain, ou bien si véritablement l'Europe se met en ordre de marche, est capable de s'unir, est capable de changer son logiciel, de quitter ce vieux logiciel tout poussiéreux, ordolibéral, pour véritablement en adopter un nouveau, avec une politique beaucoup plus volontariste et déclinée dans plein de domaines différents. C'est-à-dire qu'il s'agit pas seulement en fait de répondre sur le plan de la politique commerciale, il s'agit également en fait de trouver un nouvel élan au niveau de la politique industrielle. Il s'agit sans doute aussi de trouver dans la politique financière des leviers pour réagir à ce qui se passe au niveau géopolitique. Il faut sans doute aussi actionner la politique de la concurrence. Enfin, il y a tout un arsenal de mesures à concevoir, mais il faut s'en donner les moyens.
On peut peut-être estimer que des signaux ont été envoyés dans le sens d'un changement. Alors on va voir si c'est un changement fondamental ou un changement de circonstance. Ça va être tout l'objet de cette émission. Et de fait, Éric Monnet, si on se situe dans une perspective, on va dire, peut-être plus historique, si on prend un recul sur cet objet très protéiforme qu'est l'Union européenne. Alors on ne va pas retracer l'intégralité de la construction de cette vaste institution, sinon on en aurait pour un peu plus qu'une heure. Mais est-ce qu'on peut dire tout de même que l'Union européenne est un édifice qui finalement est particulièrement adapté à ce genre de crise que l'on voit notamment géopolitique? Est-ce que c'est souvent dans l'urgence que les institutions européennes parviennent à avancer sur des sujets qui bloquaient depuis longtemps? On va aborder la question du dogme budgétaire entre autres, mais est-ce que finalement, ce serait beaucoup dire, mais l'Union européenne a besoin, entre plein de guillemets, de ce genre d'incitation pour enclencher un véritable mouvement de changement?
Oui, enfin, on a l'habitude de dire que l'Union européenne avance par les crises, et donc on le voit encore aujourd'hui, mais en même temps, ça fait au moins une décennie qu'on vit une continuité de crises. Et donc l'Union européenne a aussi, ces dernières décennies, a déjà avancé à travers les crises. En fait, il y a eu déjà notamment le Covid, la guerre en Ukraine, qui n'est pas nouvelle, et qui avait déjà amorcé beaucoup de bouleversements. Et dans les extraits qu'on a entendus, en fait, il y avait énormément de choses qui se mélangeaient. Et sur certaines choses, en fait, on est plutôt dans une continuité de ce qu'on a vu se détacher déjà ces dernières décennies, ou depuis au moins la crise financière de 2008. Sur certaines choses, on est un peu dans une orientation un peu nouvelle. Et sur d'autres, bon, il y a des gros points d'interrogation, quoi. Donc, ce qu'on a entendu, par exemple, il y avait la question d'avoir un marché des capitaux, marché de capital plus important. Donc là, c'est mobiliser l'épargne privée, en fait. Et donc, en fait, faire en sorte qu'il y ait un marché privé plus important en Europe. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là, on ne voit pas encore d'avancée complètement majeure. Donc là, on va y revenir. Le deuxième point qu'on a entendu, c'est sur un peu la mobilisation de l'épargne, cette fois publique, avec plus d'intervention de l'Union européenne. Alors, on reviendra sans doute sur toutes ces formes d'intervention qui sont complexes. Mais en gros, là, on peut dire rapidement, c'est l'Union européenne qui lance ce processus de faire de plus financements, qui ne sont pas tous des financements publics, mais qui sont au moins amorcés par le public. Donc là, effectivement, on voit un nouvel exemple là, dans le plan de réarmement européen, mais c'est un exemple qui là se situe dans une continuité qu'on peut dater en fait au plan Juncker, qui a d'abord été fait en 2015, et puis ensuite on a eu le pacte vert européen. Et donc là, le plan d'armement qu'on voit ici, en fait, il est dans la continuité de ces plans. En fait, c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes moyens d'intervention. C'est évidemment un objet différent, mais on est dans le même esprit. Donc on est là dans la continuité de quelque chose qui s'est passé en Europe depuis au moins une dizaine d'années. Ensuite, sur la question de la défense, on entend Emmanuel Macron qui dit c'est le renouveau de l'Europe de la défense. Pour l'instant, là, on voit rien du tout. Enfin, autant être clair, par rapport à ce qu'on dit être l'Europe de la défense, c'est-à-dire mettre ensemble des forces de défense européennes, pour l'instant, on ne voit aucune avancée. Là, on parle uniquement de financement militaire. Donc, on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle l'Europe de la défense. Donc là, on attend encore des avancées. Sur le quatrième point, qui est le point budgétaire, Là, c'est surtout, en fait, un changement, et Jamel en parlait, mais qui vient de l'Allemagne pour l'instant. C'est surtout ça. Mais c'est un changement, là, je suis d'accord que c'est un changement assez historique. C'est-à-dire que le changement allemand, en fait, de faire que l'Allemagne se donne beaucoup plus de manœuvres budgétaires, est quelque chose qui change pas du tout les règles européennes. Ça n'a rien à voir avec un changement des règles européennes, mais qui va changer un peu l'esprit dans lequel s'est construit l'Europe vis-à-vis de règles budgétaires.
Sachant que l'Allemagne a largement participé à cette architecture Exactement. Budgétaire européenne, et de fait, ce changement-là, venu d'un seul État membre, ce n'est pas n'importe lequel des États membres, on va revenir là-dessus, et ce n'est pas non plus une évidence en tant que telle, ne serait-ce qu'au niveau politique, pour l'Allemagne, qui ça provoque un certain nombre de débats. Jérôme Krill, on vient de voir avec Éric Monnet tous les tiroirs qu'on va tenter de tirer aujourd'hui, des différentes temporalités, des différents outils aussi qui sont mis sur la table. On a évoqué deux crises qui ont eu lieu avant celle que l'on connaît aujourd'hui, la crise sanitaire du Covid, et puis on pourrait évoquer aussi, ne serait-ce que la crise de 2008. On a l'impression que l'Union européenne, très souvent, depuis le whatever it takes très, très fameux, on a l'impression que les politiques, de quoi qu'il en coûte, l'idée de mettre tous les moyens sur la table d'un coup d'un seul, de prendre des outils qu'on n'avait jamais vus jusqu'ici, etc. Finalement, ça devient une sorte de norme pour l'Union européenne, une sorte d'habitude. Est-ce que, j'en reviens à ma question, de savoir si finalement l'Union européenne, en tant que, grâce à ses institutions, peut faire face à ce genre de crise et relativement plastique finalement.
Alors, l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de réagir. Ça, je pense que Jezabel a été très claire là-dessus. C'est on fait quelque chose ou on fait rien. Si on fait rien, on survivra pas. Donc, je pense qu'il est évident qu'on va utiliser les outils à notre disposition. Ce qui, pour moi, pour l'instant, est assez frappant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux outils. Finalement, le Rearm Europe, c'est des outils préexistants et c'est une annonce. C'est 800 milliards qui d'abord pour partie existent déjà dans le budget européen, puisqu'il y a une partie de fonds de cohésion non alloués qui va servir à financer éventuellement cette Europe de la défense. On aurait une émission de dette commune à nouveau, mais pour que des États membres puissent accéder à des prêts européens, sauf que quand on leur en a donné la possibilité après la crise sanitaire, ils n'ont pas tous réclamé l'ensemble des fonds alloués, et surtout pas vraiment les prêts européens. Donc bon, c'est un outil qui n'a pas vraiment fonctionné il y a 5 ans, qu'on réessaye d'utiliser. Et puis, il y a la clause d'exemption du pacte de stabilité et de croissance qu'on a déjà utilisé sous Covid et qu'on va utiliser pour un seul objectif, c'est pour construire ou bâtir des armes, une armée qui laisse imaginer aussi à nos concitoyens que certes une priorité aujourd'hui, mais qu'on dirait que c'est la seule des priorités et qu'on n'a pas été capable d'y penser précédemment. Je pense qu'il y a d'autres enjeux qui valaient la peine d'être traités par les Européens, et accélérer la transition écologique faisait partie de ces enjeux. Il y a des fonds, ils sont pas totalement alloués, et finalement on a... Moi, je ressens comme une forme de retard aussi, de lenteur dans nos institutions. L'agression que nous subissons des États-Unis d'Amérique, elle a démarré à l'été 2022 quand Joe Biden a déclenché l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est une décision de subvention sur le territoire américain des industries qui allaient favoriser la transition écologique au détriment de tous les partenaires des États-Unis d'Amérique, y compris ses alliés. Donc voilà, ça fait 3 ans que cette guerre commerciale existe. Donc il est vraiment temps qu'on réagisse.
Oui, mais on pourrait se dire aussi que le sentiment de l'urgence n'était peut-être pas aussi fort il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut attendre ce genre d'électrochoc pour que les choses bougent?
Je pense qu'à l'été 2022, il est à peu près clair pour les Allemands qu'ils vont perdre des usines Volkswagen qui vont aller s'exporter aux États-Unis, qui vont perdre de l'emploi, qui vont perdre de la croissance, qu'il va leur falloir faire une relance budgétaire et échapper à leurs règles budgétaires ultra contraignantes, ce qu'ils sont en train de discuter aujourd'hui, si j'ai bien compris. Et effectivement, là, on a un changement, mais c'est 3 ans plus tard.
Bon, et de fait, on comprend que l'ensemble des règles dictées sont aussi, voire surtout là, pour être adaptées, on va dire, aux circonstances et en fonction aussi du sentiment de l'urgence qui s'impose. Vous avez mentionné, Jérôme Krill, ce fameux plan de réarmement, ce fameux plan à hauteur de 800 milliards de dollars qui a été mis
d'euros.
D'euros, à ne pas confondre.
Ils nous ont pas encore imposé leur monnaie.
Qui a été mis sur la table donc le 4 mars dernier et que Ursula von der Leyen a détaillé le mardi dernier.
Avec le plan pour réarmer l'Europe,
Nous pouvons mobiliser 800 milliards d'euros. Chers parlementaires, laissez-moi vous présenter la clause de sauvegarde nationale. Et permettez-moi de vous expliquer pourquoi il est crucial de mobiliser les budgets nationaux. Car nous dépensons seulement en moyenne 2% de notre PIB en défense. Toutes les analyses s'accordent pour dire que nous devrions dépenser plus de 3%. Et si on regarde le budget européen, c'est seulement 1% du PIB. Il est donc évident que le gros des nouveaux investissements ne peut venir que des États membres. C'est donc pourquoi nous activons la clause de sauvegarde nationale prévue par nos nouvelles règles fiscales. C'est un nouvel outil que nous avons créé l'an dernier et nous proposons de le déployer de façon contrôlée dans le temps et de façon coordonnée pour que cela puisse transformer rapidement et efficacement nos budgets de défense.
This can transform our defense budgets quickly and effectively.
Les États membres pourraient mobiliser 650 milliards d'euros sur les quatre prochaines années pour augmenter le budget de défense de 1,5 point de PIB sur 4 ans.
Voilà, Ursula von der Leyen qui fait donc mention d'un nouvel outil, elle le dit, elle le présente ainsi, donc peut-être pas comme l'aurait dit Jérôme Krill qui doute de la nouveauté de ce qui a été mis sur la table. Éric Monnet, en quoi finalement cette clause de sauvegarde nationale qu'évoquait Ursula von der Leyen fait partie d'un nouvel arsenal? Est-ce que véritablement c'est la première fois qu'on entend parler de la mise en application de cette clause-là?
Oui, donc là, il s'agit d'une véritable nouveauté, donc qui n'était pas mentionnée dans les premiers extraits, donc je l'avais pas encore parlé. Donc là, c'est le cinquième point, et qui là est véritablement à l'échelle européenne, contrairement à la décision allemande, qui, je le rappelle, parce que c'est quand même important, c'est une décision nationale, c'est-à-dire que la décision qu'ont pris les Allemands, c'est-à-dire de changer les règles budgétaires en Allemagne, qui a une influence, on va dire, un peu sur le débat européen, sur l'esprit européen, mais ne change rien elle-même aux règles budgétaires. Là, c'est différent. C'est-à-dire que les pays européens se sont entendus. Donc, c'est pas, ils s'étaient entendus préalablement qu'il pouvait y avoir cette clause de sauvegarde. C'est-à-dire que dans des cas extrêmes, on allait sortir certaines dépenses publiques du budget des États et donc des règles budgétaires européennes. Donc là, c'est ce qui est décidé sur les dépenses militaires. Donc c'est effectivement une... Bon, mais c'est presque classique sur un plan de réarmement militaire. C'est-à-dire que ça, là, il n'y a pas beaucoup de changements dans l'histoire. C'est-à-dire que... Et ça, c'est très propre aux dépenses militaires. On peut regretter que ce soit pas fait pour d'autres types de défense, oui, environnementale, etc. Que les dépenses militaires sont souvent quelque chose qui sont sorties des budgets sur lesquels il est plus facile d'avoir une cohésion nationale pour faire des causes d'exception, un statut exceptionnel à ce type de dépenses. Et c'est ce que fait l'Europe ici.
Donc ça, c'est ce que fait l'Europe. L'autre versant de ce grand plan de réarmement, c'est finalement, et Ursula von der Leyen le dit beaucoup, c'est de laisser les États membres finalement choisir aussi du montant des investissements à faire, de la façon dont ils vont s'endetter aussi. Il y a un peu cette responsabilité qui est laissée à ces entités presque individuelles que sont les États. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir, Fitch doit rendre son évaluation de la santé économique de la France, ce qu'elle fait régulièrement, et l'agence justement s'interroge sur l'influence de ce plan de réarmement sur la dette européenne en général. L'agence l'a dit, si une augmentation des dépenses nationales de défense pourrait affecter à moyen terme la note des États membres notés triple A, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et le Luxembourg, le plan Rearm Europe pourrait également réaffirmer l'importance politique de l'Union européenne, ce qui constitue un facteur clé de notation. Voilà donc ce qu'a déclaré Fitch, Jezabel Coupé-Soubéran. Si on regarde à moyen long terme, on pourrait se dire que voilà, afficher cette cohésion politique, cette mobilisation aussi face à ce qui se passe en Ukraine et puis même de façon plus, on va dire, conjoncturelle avec les tensions géopolitiques, on pourrait se dire que ça va avoir un impact plutôt positif aussi pour l'Europe politiquement et économiquement.
Oui, mais c'est quelque chose qui aurait dû se mettre en place depuis longtemps. On rejoint la lenteur dont parlait Jérôme à l'instant. C'est-à-dire que pour gagner effectivement en marge de manœuvre budgétaire, en capacité d'investissement, il aurait fallu que depuis longtemps les États membres progressent sur le chemin de l'union budgétaire. Et bon, là vraisemblablement c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que bien sûr il va y avoir des initiatives nationales, mais je pense que ces initiatives nationales ne seront pas viables si elles ne s'accompagnent pas d'une mise en commun des ressources. Et bon, manifestement, c'est quand même là ce qui semble être un peu acté, c'est-à-dire que on va sans doute avoir à nouveau des emprunts communs, comme ce qui avait eu lieu pendant la crise sanitaire, mais là, il s'agit plus, si vous voulez, de concevoir ça comme une opération exceptionnelle. En fait, il faudrait inscrire cette mutualisation des emprunts vraiment dans la batterie des instruments budgétaires européens. On va peut-être aussi profiter de cette occasion pour revoir l'étendue du budget européen. Donc il y a des choses qui vont se faire sur le plan budgétaire, et il me semble que il faudra même sans doute aller plus loin que ça. Est-ce que les États membres y seront prêts? Ça, c'est pas certain. Mais en fait, il va falloir un peu de mutualisation budgétaire, plus de capacité au niveau du budget européen. Mais il faudra sans doute aussi mobiliser la Banque centrale pour contenir en fait les effets macroéconomiques et financiers de ces efforts budgétaires nationaux et mutuels, parce que la charge d'intérêt va vraisemblablement augmenter. Si on veut contenir l'augmentation de cette charge d'intérêt, il va sans doute falloir que la Banque Centrale Européenne se mobilise, rachète les titres émis par les États. Enfin voilà. Voyez, bon, on sent bien qu'il y a des verrous qui sautent. La déception de fond, quand même, dans tout ça, c'est que ça arrive tard. Ça arrive pour un enjeu qu'il ne faut absolument pas négliger, un enjeu de sécurité. Quel dommage de ne pas avoir perçu la nécessité de ça pour les enjeux de durabilité, pour les enjeux de transition écologique. Parce que là, sur ce plan-là, on va peut-être en parler après, mais il y a quand même le risque, en fait, d'avoir, si vous voulez, un recul de ce côté quand on avance sur le plan de la défense, alors que tout ça, au fond, est profondément imbriqué. Notre sécurité, elle réside aussi dans la durabilité.
Mais on a très clairement l'impression qu'il y a une forme de hiérarchisation très nette qui a été opérée au vu des circonstances. Isabelle Coupé Soubéran, tout de même, il y a une chose très importante qu'il faut souligner, c'est que au sein même des États membres, il y a des tensions politiques assez fortes, et notamment chez les États qu'on dit frugaux, donc notamment les Pays-Bas. Il y a une sorte de motion de censure qui a été votée de la part de certains partis vis-à-vis du Premier ministre néerlandais, qui avait affiché son soutien à ces mesures d'endettement pour le réarmement. Idem en Allemagne, c'est très compliqué, notamment au vu de la situation politique qui est relativement instable. Or, un des arguments qui est avancé par les chefs de gouvernement qui défendent ce plan Rearm Europe, c'est celui justement d'un endettement qui ne concerne que les États individuellement, qu'il n'y ait pas justement cette mutualisation-là. Ça fait partie un peu des garde-fous, donc on voit bien qu'on n'est pas non plus en train d'avancer à toute berzingue sur ce plan-là.
Oui, vous avez raison, c'est pas gagné, mais il me semble que les marges de manœuvre sont recherchées au niveau nationaux, sans avancer parallèlement dans la mutualisation des ressources, à mon sens, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que les conséquences seront fortes pour certains pays, et certains pays s'exposeront vraisemblablement à des tensions sur le marché de la dette, voire seront exposés à une crise de la dette. Donc, il va quand même falloir finalement avancer sur le terrain de l'union budgétaire. Si on ne le fait pas, je pense qu'en fait, on n'arrivera pas à financer ce qu'il y a à financer, tant sur le plan de la défense que sur d'autres plans, sur la réindustrialisation, sur la décarbonation, etc.
Éric Monnet, on l'a beaucoup dit, Friedrich Merz a fait un peu figure de grande découverte, ou en tout cas de jouer la carte de la surprise aussi en soutenant cette idée d'une revisite totale de ce dogme budgétaire qui avait été très fortement soutenu aussi par l'Allemagne pendant tout tout le long aussi de la construction de ce dogme budgétaire-là. Donc, on a parlé d'un véritable retournement. Est-ce que, pour autant, le fait que Friedrich Merz se déclare favorable fait que tout le monde va suivre derrière, y compris les Pays-Bas, y compris des États beaucoup moins endettés qui n'ont pas l'intention de le devenir? Finalement, est-ce que derrière cette idée de consensus, d'Europe en ordre de bataille, il n'y a pas quand même de fortes dissensions à l'intérieur même des États membres?
Oui, bien sûr, les dissensions sont très fortes. On le voit effectivement dans les débats, vous avez mentionné là, les Pays-Bas qui sont assez réticents sur augmenter en fait leurs dépenses militaires, même avec la clause de sauvegarde, donc ce qui permettrait d'augmenter ces dépenses militaires sans que ça rentre dans les règles budgétaires européennes. Donc il y en a qui peuvent être pour d'autres raisons. Je veux dire, la Hongrie là c'est encore assez peu exprimé sur ça, mais là c'est plus des raisons idéologiques. On voit mal la Hongrie se réarmer pour faire la guerre à la Russie. Donc il y a des dissensions en Europe qui sont très fortes. Et pour ça on est loin, je pense, de la mutualisation. Et ici de tout ce qu'on a parlé, en fait il y a très très peu de mutualisation. Alors on peut le regretter ou pas, mais je pense qu'il faut d'abord prendre cet état de fait. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle ni de mutualisation budgétaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de budget commun de la dépense, ni de mutualisation des forces de défense européennes. Donc là, on est, et c'est ce que je disais au début de l'émission, on est plutôt dans une continuité de ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que on augmente, on va dire, ce qu'on peut appeler la force de frappe financière de l'Union européenne, avec ce qu'on appelle les effets leviers, c'est-à-dire que l'Union européenne en fait met une partie de son budget qui est assez faible, hein, il sera 150 milliards, et ensuite les place en fait comme fonds garanti à la Banque européenne d'investissement. Donc là ça peut devenir un peu technique, mais cette Banque européenne d'investissement, ce qui est fait aussi pour le Pacte vert, en fait utilise cette manne budgétaire, donc qui vient de public, pour en fait aller convaincre des investisseurs privés de eux-mêmes financer ces objectifs. Donc ça, c'était vraiment le plan Juncker, le pacte vert. Et on va un peu encore aujourd'hui dans cette ligne. Donc on est plutôt sur en fait un renforcement de l'échelon européen, un peu au niveau budgétaire et financier, mais on n'est pas du tout dans une mutualisation des budgets européens. Ce qui permet en fait d'avoir des positions différentes de ces pays en fait. Ce qui fait que même si les Pays-Bas sont pas d'accord, bon bah ça n'empêche pas ici d'avancer, ça n'empêche pas l'Allemagne de faire une politique pour se réarmer.
Donc si on vous comprend bien, Éric Monnet, c'est plutôt un rôle de locomotive ou en tout cas d'exemple que cherche à incarner l'Union européenne. C'est plutôt l'idée d'embarquer tout le monde ensuite en laissant un peu le libre arbitre à chacun. Est-ce qu'on pourrait le formuler comme ça ?
C'est un peu ça. C'est-à-dire que l'Union européenne, il y a toujours cette ambiguïté dans l'Union européenne qui est une forme, on le sait, politique assez étrange et assez unique. C'est-à-dire que même quand des choses se font au niveau fédéral, au niveau de l'Union européenne, ça se fait souvent pour être compatible avec des politiques nationales importantes. Le livre de référence qui n'a toujours jamais été traduit en français sur l'histoire économique de l'Union européenne, de l'historien anglais Alan Millward, et qui s'appelle European Rescue of Nation States, et en fait le sauvetage de l'État-nation, et en fait qui voit que l'Union européenne est en fait souvent utilisée par les pays pour résoudre des problèmes nationaux qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et là, je veux dire, l'Allemagne, c'est l'exemple typique. C'est-à-dire que l'Allemagne a un énorme problème national, qui, là, je suis d'accord avec ce qui était dit avant, en fait, traîne, et auquel ils n'apportaient pas de réponse, et le gouvernement précédent allemand avait vraiment été en échec pour apporter des réponses. Et là, en fait, ça aurait été très difficile pour l'Allemagne de pouvoir faire ce changement budgétaire sans invoquer un idéal européen. Et donc là, on est dans un exemple typique où, en fait, ce qui permet en fait une relance budgétaire purement nationale, c'est une relance budgétaire qui est d'abord purement nationale au niveau allemand, en fait, se fait avec une justification européenne.
Et donc cet idéal, enfin en tout cas cette cause majeure qui est celle du réarmement européen face à la crise en Ukraine, et d'ailleurs ça explique aussi peut-être Jérôme Kriel, le fait qu'on l'entendait en tout début d'émission, mais que Villeroy de Gaou a dit nous on fera pas du quoi qu'il en coûte, il est hors de question de faire du quoi qu'il en coûte, alors que Friedrich Merz a clairement assumé ce terme-là. On voit bien qu'il se greffe effectivement des stratégies nationales, des besoins de relance ou non qui viennent se greffer de fait à cette relance européenne plus large.
Oui, il l'a dit, j'ai entendu comme vous. En même temps, les marges de manœuvre que Réarme Europe est en train d'accorder aux États membres sont extrêmement diverses, très limitées. On a des Italiens et un gouvernement italien qui est très réticent à utiliser cette clause de sauvegarde. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué Jezabel, si les Italiens se voient autorisés à dépenser un point de PIB de plus augmentant dès lors leur déficit public d'un point de PIB de plus, qui ne les limitera pas au regard des critères de 3% sur le déficit public et des circonstances exceptionnelles qu'il pourrait y avoir derrière, vont se retrouver avec une dette qui va grandir, avec des marchés financiers qui vont se dire, bah, c'est encore un pays qui va pas aller vers les 60% au rythme souhaité, raisonnable, qui est dans les traités. Et donc, il va y avoir des spreads de taux entre les États membres, avec une Allemagne qui va émettre beaucoup de dettes, qui va avoir une signature exceptionnelle, des Italiens dont la signature sera moindre, la qualité de la dette sera moindre, pareil pour la France. Et de ce fait, M. Villeroy de Gallo, lors de réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, devra sans doute se poser la question à nouveau si c'est le rôle ou pas de la Banque Centrale Européenne de fermer les spreads. Parce qu'elle peut décider, cette BCE, de ne pas fermer les spreads, mais quand elle l'annonce, les spreads augmentent. Donc il y aura du quantitative easing. Mais en fait, c'est formidable. Parce qu'on pourrait communiquer sur Rearm Europe en disant que nous avons des outils de politique monétaire qui se sont révélés extrêmement performants. On a fait plus de quantitative easing que n'importe qui sur la planète. On a fait des achats de dettes astronomiques, beaucoup d'autres en ont fait. On a eu des taux d'intérêt négatifs. Tout le monde l'oublie, mais de 2014 à 2021, je crois, ou 2022 peut-être, les taux d'intérêt étaient négatifs entre nos banques. D'accord, elle se prêtait quand vous prêtiez de l'argent à quelqu'un et vous deviez lui payer des intérêts sur le prêt que vous consentiez. C'était une époque un peu exceptionnelle. On sait le faire. On va avoir besoin de le faire. Il faut arrêter de tourner autour du pot.
Isabelle Coupé-Soubéran, vous souscrivez à ce propos. On pourrait effectivement devoir revenir à cette période-là, de revenir à ces outils exceptionnels qu'on a pu mobiliser avec un certain succès, une certaine retombée pour les économies européennes.
Je pense qu'on va y être obligé. Pour revenir sur la mutualisation, j'étais pas en train de dire tout à l'heure que la mutualisation, l'union budgétaire allait nécessairement voir le jour. Ce que j'essayais de dire, c'est que si cette union budgétaire ne voit pas le jour, je pense qu'en fait les efforts budgétaires nationaux seront difficiles à tenir. Donc il va falloir certes libérer un peu les capacités budgétaires nationales. Il va falloir que ça s'accompagne d'une mutualisation, d'une mise en commun des ressources au niveau européen. Et je pense en effet aussi que la Banque Centrale Européenne finira par rentrer dans le jeu pour contenir en fait les effets macroéconomiques de tout ça. Après, je partage peut-être pas complètement l'enthousiasme de Jérôme sur la qualité profonde de ces instruments. C'est-à-dire qu'effectivement, si la Banque centrale intervient pour racheter les titres de dette des États européens, ça permettra d'abaisser le coût des emprunts et ça rendra les choses un peu plus tenables. En revanche, eh bien ça va provoquer des augmentations de prix d'actifs, ça va mettre à nouveau beaucoup d'argent sur les marchés financiers, ça va nourrir l'instabilité financière, ça va creuser les inégalités. Enfin, vous voyez que ça va faciliter les choses d'un côté, puis ça va créer d'autres problèmes par ailleurs. Voilà, donc c'est pas facile tout ça. La seule chose, c'est que on est là peut-être au fond à un moment où on réalise la nécessité de compléter l'union, et soit l'union se complète sur le plan budgétaire, sur le plan fiscal, sur le plan politique, et elle pourra assurer sa pérennité, soit elle ne le fait pas, et alors voilà, ça en sera fini du projet européen.
On a bien évoqué le rôle de cette Banque Centrale Européenne. Le 6 mars dernier, Christine Lagarde justement appelait, elle, plutôt à la prudence.
Two observations. One is, this is work in progress.
Deux observations. La première est que tout cela est en cours et que nous devons être très vigilants. Nous devons comprendre comment cela va fonctionner et dans quelle temporalité ces financements auront lieu, afin que nous puissions tirer des conclusions et évaluer dans quelle mesure cela tirera la croissance et quel impact cela aura sur l'inflation. Donc tout cela, nous ne le savons pas encore, évidemment. Mais nous sommes d'accord pour dire que cela va soutenir la croissance européenne en général. Cela va donner un coup d'accélérateur à l'économie européenne. Mais tout sera dans les détails. Où auront lieu les achats? Quel planning? Quel financement? Tout cela sont des décisions politiques qui ne reviennent pas à la Banque centrale.
Christine Lagarde qui parle là donc d'un coup d'accélérateur pour l'économie européenne. Éric Monnet, est-ce que c'est aussi un peu de la même façon, c'est ce qu'on disait pour les États membres pris individuellement, pris à l'échelle nationale uniquement, est-ce que c'est aussi ce que vise l'Union européenne, finalement une sorte de politique keynésienne par la relance, et là en l'occurrence la relance par l'armement, arriver à porter la croissance d'une Union européenne qui, on l'a vu avec le rapport de Mario Draghi, celui d'Enrico Letta, souffre grandement de son manque de compétitivité assumé ou en tout cas clairement identifié.
Oui, là, c'est quelque chose qui est assez intéressant qui est en train de se passer. C'est que la Banque Centrale Européenne, qui depuis 10-15 ans, là, encore depuis la crise 2008, a souvent au niveau européen été en fait un peu le leader. C'est elle qui était à la manœuvre parce que justement, on disait, la politique du point de vue politique budgétaire, il se passe rien. Donc en fait, même quand il se passe quelque chose, c'est à la traîne. Et en fait, on dit un peu, et beaucoup le déploraient, en disant que ça donne beaucoup trop d'importance à une institution qui est une institution qui est pas élue, qui est indépendante, donc qui n'est pas censée être une institution politique, qui se retrouvait en fait à être sans doute l'institution la plus forte en termes de politique européenne. Et donc là, bon, c'est pas une inversion totale, mais on voit qu'il y a un peu un changement, et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir ce qu'on entendait dans le discours de Christine Lagarde, c'est-à-dire qu'elle est un peu attentiste en disant « Ah, quelque chose se passe au niveau européen, donc en fait la Banque Centrale Européenne dit peut-être qu'elle va être un peu suiviste », ce qui est vraiment un changement par rapport à ce qu'on a vu un peu ces dernières années. Et pourquoi elle est un peu suivie? Parce que c'est vrai, il y a ce point de relance budgétaire. Elle peut aussi l'être parce qu'en fait, elle a commencé à baisser ses taux un peu plus fortement que la Banque Centrale des États-Unis. Donc là, d'un point de vue macroéconomique, on se retrouve dans une situation qui est plutôt favorable. Donc après, vu le contexte géopolitique, si vous me remettez dans un mois, on pourra dire que ça a complètement changé. Mais en tout cas, on a quand même des taux d'intérêt qui sont plus bas et nettement plus bas que les taux américains, et la Banque européenne cible en fait d'être à 2% en gros à la fin de l'année. La Fed sera autour 4-5, donc on aura quand même une différence assez forte, ce qui peut entraîner une dépréciation du taux de change, et qui dit dépréciation du taux de change dit une aide en fait aux exportateurs européens, ce qui est plutôt une bonne chose en contexte où en fait on a un allié qui nous impose des mesures protectionnistes. Donc on a à la fois une relance budgétaire qui est surtout pour l'instant visible en Allemagne, mais l'Allemagne c'est vraiment le cœur de la zone euro, et des taux d'intérêt qui sont en dessous, donc on a plutôt un contexte, et c'est assez rare, donc c'est pour ça que je le souligne, étant donné ce qui s'est passé ces dernières années en Europe, qui est plutôt à la faveur de l'Union européenne actuellement. Donc tout ça peut changer, mais c'est important. Et si je veux, bon, vous m'y avez invité en début d'émission, donc c'est un peu votre faute à faire prendre des exemples historiques, j'en reprends un, mais c'est quand même assez notable. C'est-à-dire que si on refait dans les années 30, on a pareil les États-Unis qui font en fait une mesure protectionniste en 1929, qui est mise en place en 1930, le tarif Smoot-Hawley. Et là, on a des pays européens, donc à l'époque, c'est pas l'Allemagne, c'est plutôt la France et la Belgique, qui sont un peu dans la même situation que l'Allemagne aujourd'hui, qui étaient vraiment des purs adeptes de l'austérité budgétaire. Et qui, en fait, vont décider de rester à l'austérité budgétaire. Et la condition de rester à l'austérité budgétaire, quand dans un contexte protectionniste, c'est de mettre encore plus de mesures protectionnistes, qui va en fait amorcer, amorcer en fait une guerre commerciale ou un cercle vicieux. Et honnêtement, il y a quelques mois, vous m'auriez dit ce qui allait se passer, et on avait un peu peur que l'Allemagne entre là-dedans. C'est-à-dire que l'Allemagne, avec un surplus de compte courant, donc de balance de paiement de commerce, c'est-à-dire que l'Allemagne est très excédent d'un point de vue commercial, on aurait pu penser que sa réponse à la politique américaine, ça serait de mettre énormément de barrières, ce qui aurait pu avoir un effet plutôt assez récessif en fait au niveau européen si l'Allemagne avait poussé ça. Et on voit que l'Allemagne, alors bon, là, je ne veux pas faire un tableau trop rose, mais si on prend une perspective d'un siècle, on a, franchement, je pense, évité quelque chose de largement pire. On va voir comment ça va évoluer, mais c'est relativement notable pour dire que voilà, la situation macroéconomique est pas si mal vis-à-vis des États-Unis pour l'année à venir, pour l'instant.
En fait, on comprend presque qu'on a eu de la chance dans notre malheur.
Je trouve Eric quand même très 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 optimiste parce que l'Europe et l'Allemagne, d'ailleurs, sont dans une situation extrêmement difficile, qui a d'ailleurs été bien décrite par Mario Draghi dans son rapport. Une situation vraiment de décrochage, de dépendance dans tout un ensemble de domaines stratégiques. Donc non, c'est vraiment, je trouve que c'est compliqué pour l'Europe, et toute la question, c'est vraiment de savoir si l'Europe va réussir de manière unis à mobiliser un arsenal de mesures pour faire face, pour arriver à se réindustrialiser, pour arriver à assurer sa sécurité, pour arriver à concilier tout ça avec la décarbonation. Enfin, moi, je trouve que la situation est quand même compliquée. Après, je veux bien voir aussi quand même le verre à moitié plein. En disant que de ces difficultés peuvent naître justement un nouveau logiciel. Et au fond, c'est tout à fait transposable à l'Allemagne. C'est parce que l'Allemagne est dans une situation macroéconomique et structurelle extrêmement compliqué, c'est parce que elle réalise ses dépendances tant sur le plan commercial que sur le plan énergétique, qu'elle en vient à réaliser enfin la nécessité d'investir et de lâcher son frein à l'endettement. Donc, on voit bien que des difficultés peuvent finalement naître des solutions. Ça, je suis d'accord sur ce point-là, mais je trouve quand même que la situation est compliquée.
La situation est compliquée, mais ça donne peut-être effectivement au moins une impulsion pour innover en termes d'outils, Jérôme Krill, sur verre à moitié plein, verre à moitié vide.
Un petit peu à moitié vide, mais non, c'est sur la réaction de Christine Lagarde que j'interprète pas exactement comme Eric. Je me souviens bien qu'il avait été annoncé avant tous ces événements, donc disons à la fin de l'année dernière, 2024, qu'on allait avoir un cycle de baisse des taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne, l'amenant effectivement dans les 2%. Moi, je l'écoute en mars dernier, donc il y a quelques jours, Christine Lagarde, et ce que je crois comprendre, c'est qu'elle est prête à réarmer, elle aussi, mais donc à augmenter les taux d'intérêt, qui n'iraient pas si bas qu'on l'espérait. Et du coup, la dépréciation de l'euro, elle est attendue du fait de l'écart de taux avec les États-Unis, mais moi, je la vois moindre aujourd'hui qu'il y a encore un mois et demi. C'est ça que je crains. Je pense que elle risque d'enclencher une hausse de taux parce qu'elle voit l'inflation augmenter à cause de la relance allemande, à cause des droits de douane, et que voilà, elle fasse ce qu'elle pense être son boulot d'assurer la stabilité des prix, mais peut-être au risque d'enrayer une croissance économique importante et éventuellement la réindustrialisation, dont je crois tous les trois nous sommes d'accord pour dire qu'elle est bienvenue.
En tout cas, on comprend que différentes recettes sont testées, mais qu'aucune n'est vraiment fondamentalement radicale par rapport à ce qui a déjà été mis sur la table. Une piste, on l'a évoqué très souvent depuis le début de cette émission, sans vraiment peut-être s'attarder, pas forcément sur ces mécanismes, mais sur la raison pour laquelle il n'a pas fonctionné, c'est cette fameuse union des marchés de capitaux qui est appelée de ses voeux par de très nombreux dirigeants. On l'a dit, ça fait longtemps aussi, 2014, que cette idée est évoquée. On va donc en discuter un peu plus en profondeur pour savoir si l'Europe peut retrouver un souffle financier aussi grâce à cela. La question se pose d'autant plus que nous sommes tous ensemble concernés. We're in this thing together, chantait le groupe Peaches and Herb.
Make it last forever. Our love is built with determination. Set me up.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture, la table ronde d'actualité d'Entendez-vous. L'écho est consacrée aujourd'hui aux outils que pourrait mobiliser l'Union européenne face aux investissements à réaliser sur le court, moyen et long terme face à l'urgence de la guerre en Ukraine, mais aussi dès lors qu'on se penche sur des questions de compétitivité et de transition écologique. Et nous sommes toujours en compagnie des économistes Jezabel Coupé-Soubéran, Jérôme Krill et Éric Monnet. Alors, on a beaucoup évoqué ce qui bloquait jusqu'ici, les petites avancées, en tout cas les relatives innovations qui ont lieu de part et d'autre, on va dire, des États membres de l'Union européenne. Une piste est sans cesse évoquée, celle de l'union des marchés de capitaux, en tout cas la lutte contre la fragmentation qui persiste et signe encore aujourd'hui au sein de l'Union européenne. C'est ce que disait Enrico Letta.
On a la même monnaie en Europe, donc on a conclu l'union monétaire, mais de ce grand projet qui était le marché unique et qui est devenu après la union économique et monétaire, à la fin, on a conclu seulement le M de l'union monétaire, mais le E de l'union économique reste aujourd'hui un grand problème. Les sujets que j'ai le plus mis à l'attention sont évidemment ceux des marchés financiers. Le fait qu'on ait 27 et que, par exemple, le marché financier américain est 1 fait en sorte qu'une large partie de nos mêmes épargnes s'en vont aux États-Unis et renforcent les entreprises américaines qui reviennent en Europe pour acheter nos entreprises européennes avec l'argent de nous, les épargnants européens. Ce serait tout autre chose si on avait un marché unique européen beaucoup plus fort et capable donc d'attirer nos investissements. Ce que je trouve absolument clé aujourd'hui est avoir conscience du fait que si on reste fragmenté dans tous les domaines dont je vous ai parlé, et je pourrais faire toute une série d'exemples beaucoup plus exhaustifs sur les conséquences de cette fragmentation nationale dans ces domaines de compétitivité aide, rend heureux Wall Street, les Américains, les Chinois, les Indiens, les BRICS, qui sont capables de profiter de notre fragmentation.
Voilà un discours tenu par Enrico Letta le 5 mars dernier, mais qui reprend ce que disait aussi par ailleurs Ursula von der Leyen lors du sommet de Davos. Elle le disait, l'épargne des ménages européens s'élève à près de 1400 milliards d'euros, alors qu'elle ne représente qu'un peu plus de 800 milliards aux États-Unis. Mais les entreprises européennes peinent à tirer parti de cette situation et à recueillir les financements dont elles ont besoin. Cela est dû à la fragmentation de notre marché des capitaux intérieurs. Jérôme Krill, est-ce vrai? Le problème est vraiment celui de la fragmentation?
Il y a certainement un problème de fragmentation. Moi, je suis d'accord, évidemment, avec le diagnostic porté par Enrico Letta, qui a étudié plus longuement que moi ce problème, par ailleurs. Mais on le voit avec les écarts de taux d'intérêt, l'immobilité de l'épargne, la préférence nationale, finalement, que nos épargnants ont à conserver leur épargne d'abord et avant tout dans leur pays, et leur banque ensuite va en faire ce qu'elle voudra, éventuellement financer les États-Unis comme il était rappelé. Moi, je voulais quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a 4 libertés fondamentales en Europe, dont celle des mouvements de capitaux, qu'elle est assurée depuis 1990, et que depuis 1990, en dépit de cette mobilité parfaite des capitaux entre l'Europe et le reste du monde, mais entre les États membres de l'Union européenne, on assiste à une fragmentation. Je me dis qu'il y a sans doute des verrous à faire sauter, et je me demande où ils se situent. J'ai bien noté qu'on avait eu un petit changement sémantique dans le projet d'union des marchés de capitaux, devenu une union de l'épargne et de l'investissement, parce que l'union des marchés de capitaux peut laisser imaginer qu'il y a une place moindre pour les banques. Quoique, elles auraient pris cette place si l'union des marchés de capitaux était créée, bien entendu. Union de l'épargne et de l'investissement, ça leur redonne une place centrale dans la discussion. Et je pense que les banques ont tout intérêt à ce que cette fragmentation perdure. Et que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'union des marchés de capitaux, dont on parle peut-être depuis 2014, n'a toujours pas avancé. Mais pas du tout. Je voudrais juste ajouter un point. Il y a une idée aussi qui consiste à considérer que parce qu'on n'a pas cette union des marchés de capitaux ou une autre appellation, il y a une sorte d'épargne oisive.
Oui, Bruno Le Maire avait dit, il faut appeler l'épargne des Européens d'or.
Voilà, oui, il y a une épargne oisive. Bon, cette épargne, je ne sais pas si elle est oisive, je ne le pense pas. Bon, elle est située, je crois que dans le rapport de l'État, il est fait mention de 33 000 milliards d'euros qui sont dans des comptes sur dépôt et des comptes sur livret extrêmement liquides. Et donc, il considère qu'il faut les mobiliser mieux. mais cet argent existe, il constitue une ressource pour nos banques qui doit bien l'utiliser à quelque chose. Et donc si on peut nous démontrer que ce quelque chose n'est pas utile, eh bien c'est sans doute vers les banques qu'il faut se tourner. Monsieur Villouard Gallo aura tout intérêt à aller discuter avec ses amis les banquiers pour qu'au lieu de faire la maraude de l'Union des marchés de capitaux, on s'assure que les banquiers prennent peut-être un peu plus de risques, même si je sais que c'est pas leur métier de prendre des risques, mais il y a des moyens de se couvrir contre le risque. Donc cette liquidité existe, les Français, les Italiens, les Allemands en disposent, bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux pour certains produits d'épargne. Ce sont bien leurs banques qui mobilisent leur épargne vers des projets d'investissement, donc c'est avant tout un projet tourné vers les banques qu'il faut sans doute caractériser beaucoup plus précisément. C'est loin d'être le cas aujourd'hui.
Isabelle Coupé-Soubéran, cette question du rôle des banques, elle est cruciale, elle est extrêmement intéressante, parce que c'est vrai, si je le résume très grossièrement, on pourrait se dire, on aura beau mettre en commun cet argent qui ne dort pas véritablement, mais qui, on estime qu'il n'est pas assez productif, on pourrait le dire ainsi, on aura beau le mettre en commun, ce seront toujours les banques, finalement, qui auront une forme de main dessus. En fait, l'idée, c'est pas tant de rassembler l'argent que de savoir comment le flécher, ce qu'en faire. Et ça, très concrètement, est-ce qu'on a la gouvernance pour, est-ce qu'on a les institutions pour au sein de l'Union européenne ?
Effectivement, c'est très important, je crois, d'insister sur ce point, parce que on entend trop il faut aller chercher l'épargne des Européens, il faut en faire quelque chose, comme si en effet elle dormait quelque part dans un coffre. Elle dort pas dans un coffre, hein, l'épargne des Européens, elle est gérée par des banques, elle est gérée par des assureurs, par des fonds d'investissement. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est précisément: que font les banques? Que font les assureurs? Que font les fonds d'investissement? Dans quoi investissent-ils? Que détiennent-ils? Quels actifs détiennent-ils? Pourquoi ne détiennent-ils pas davantage de titres émis par des entreprises européennes qui ont à cœur d'avancer dans la transition écologique? Pourquoi est-ce que les banques n'orientent-elles pas davantage leurs crédits vers l'investissement productif, vers des investissements de décarbonation? Pourquoi est-ce que une grande partie des crédits continue d'aller dans l'immobilier, et en particulier dans l'immobilier ancien, pour des usages assez improductifs? Donc c'est vraiment sur le modèle d'activité en fait des banques et des autres institutions financières qu'il faut s'interroger. Et il y a là des leviers en fait pour réorienter l'activité des banques. Alors la régulation bancaire qui est en place n'est pas une régulation très intrusive, si vous voulez. C'est une régulation qui accompagne le fonctionnement du marché du crédit, qui ne cherche pas vraiment à remodeler, hein, le business model des banques. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, parce que l'union des marchés de capitaux, ou l'union de l'épargne et de l'investissement, ça ne se décrète pas en fait. Ça, pour arriver à réintégrer les marchés européens, eh bien il faut des produits d'épargne européens, il faut sans doute aussi des produits d'investissement européens, il faut des eurobonds, il faut des titres d'emprunt, communs, il faut que tout ça soit véritablement unifié. Ça ne l'est pas, c'est bien ça le problème, et c'est pour ça que l'union des marchés des capitaux, pour l'instant, c'est une fausse solution, parce que en fait, ce sera la conséquence de mesures prises, si ces mesures sont prises. Mais pour l'instant, on peut pas dire que l'union des marchés de capitaux constitue une solution. Je trouve que Mario Draghi, dans son rapport, mise beaucoup trop sur cela. Or, juste pour terminer sur ce point, au fond, on ne peut avoir d'union des marchés de capitaux que si on a, on y revient, une union budgétaire, une union fiscale, une union politique. C'est la résultante de ça. Donc cette désintégration, elle est le résultat de l'incomplétude du projet européen.
Donc on le comprend, il y a quand même un sacré nombre d'étapes, on va dire, avant d'en arriver là, des étapes qui peuvent être mises progressivement en place. Ce n'est pas forcément une révolution du jour au lendemain qui se dessine là. Ce qui est intéressant, et je prends le petit bout de la lorgnette, ce qui est intéressant, Éric Monnet, et on parlait notamment de la capacité d'emprunt, de cette idée d'un emprunt commun qui serait un emprunt vis-à-vis de l'intégralité de l'Union européenne, c'est que Pierre Gramegna, le directeur général du mécanisme européen de stabilité, avait dit que les marchés estimaient que les dépenses supplémentaires pour la dépense seraient mieux financées par un emprunt commun de l'Union européenne et que les marchés auraient beaucoup mieux réagi en fait face aux annonces notamment du plan Rearm Europe, que tout cela aurait été beaucoup mieux accueilli, aurait généré beaucoup moins d'instabilité financière si cet emprunt avait été au nom de l'Union européenne. Est-ce que c'est vrai selon vous? Est-ce que ça peut être un gage effectivement, ne serait-ce que pour les marchés, qui est une autre façon de sanctionner aussi les décisions prises? Est-ce que ça représente finalement un horizon pour l'Union européenne?
Bah, oui, il y a un truc, quelque chose qu'on observe toujours sur les marchés de dette publique, c'est que plus un pays est grand, puissant, stable politiquement, plus il peut émettre de la dette à un prix élevé, donc à un taux d'intérêt bas, quoi. Donc c'est vrai pour l'Union européenne. On peut voir d'ailleurs que la Banque européenne d'investissement, quand elle émet de la dette, c'est une dette qui est coulée avec un taux d'intérêt très bas. Donc voilà. Alors en face, vous n'avez pas la question fiscalité, c'est-à-dire que la Banque européenne d'investissement en fait ne se finance pas avec des impôts. Donc ça, c'est un peu différent. Mais effectivement, la signature, on va dire, européenne est très bien vue, quoi. C'est les marchés, tout ce qu'ils veulent, c'est des choses de la dette sûre, quoi. Mais voilà, mais c'est pas vraiment ce dont la question
c'est,
du
de, c'est l'étape précédente de, enfin, c'est de, une autre étape
plutôt, voilà, parce que le raisonnement d'Enrico Letta, enfin je pense que je sais pas si tu peux revenir là-dessus ici, mais c'est pas celui de l'épargne oisive, hein. Ça c'est le concept de Bruno Le Maire qui est pas vraiment un concept économique par ailleurs, donc on sait pas vraiment ce que c'est que l'épargne oisive. L'Etat, c'est pas ce qu'il dit. Enrico Letta dit aujourd'hui il y a beaucoup d'épargne des Européens qui part aux États-Unis. En gros, qui va financer la Silicon Valley. Enfin, concrètement, les gens ont des assurances-vie. Dans les assurances-vie, vous avez une partie qui est en dette publique. Bon, ça, c'est plutôt généralement européen. Et une partie, c'est des actions. Mais en même temps, vous savez pas exactement. Ça va dans un fonds qui est géré lui-même par un autre fonds. Et en fait, tout ça finit souvent géré par des fonds américains qui vont investir ça dans des entreprises américaines. C'est ça le raisonnement de l'État. Et donc, ce qu'il dit, c'est que si en Europe, c'était plus facile d'avoir des gros acteurs financiers, c'est pour ça qu'ils auraient une capacité d'être au-delà des frontières d'un seul pays, en fait, ils investiraient plus dans des entreprises européennes. Donc c'est ça son raisonnement.
L'idée, c'est de créer des champions européens de la finance.
L'idée, c'est de créer les grands champions européens de la finance. Et donc, c'est là qu'à la fois, bon, le raisonnement est intéressant, enfin, se tient, et je pense que part surtout d'un constat important qui est aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'épargne européenne finance des entreprises américaines, mais à trois limites. Enfin, c'est la première, c'est les questions politiques qu'il y a avec ces champions de la finance. On voit aux États-Unis, vous avez des géants, BlackRock, Vanguard, qui à un moment finissent par détenir une grande partie des entreprises américaines. Donc, politiquement, est-ce qu'il y a quand même un peu des problèmes avec ce modèle-là? Le deuxième point sur lequel le rapport l'État et Draghi est un peu silencieux, c'est qu'au final, il y a quand même on en parlait tout à l'heure, une différence de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. Donc là, vous avez beau avoir des champions financiers, ils vont toujours investir là où le taux d'intérêt est le plus élevé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et l'État a proposé à un moment de dire « Ah oui, mais avec la fiscalité, on pourrait peut-être... » Donc là, c'est quelque chose qu'on lit un peu entre les lignes dans le rapport l'État, mais qui c'est une sorte de protectionnisme financier, de dire « Ok, sur certains types de dettes, on va donner un avantage fiscal à la dette européenne. » Ce qui, à mon avis, là, on touche quelque chose qui est important. Et la troisième limite, c'est il y a beaucoup de choses, notamment sur les questions de transition écologique, qui ne sont pas extrêmement rentables. Donc là encore, je reviens à la question des taux d'intérêt. Donc là, alors le rapport Draghi en parle un petit peu, mais justement, la Banque européenne peut financer d'investissement, peut financer ce genre de choses.
Et malheureusement, tout le monde a envie de réagir et de reprendre la parole, mais cette émission est en train de se terminer.
Il y a quand même une quatrième limite qui est fondamentale, c'est le risque systémique, le risque de crise financière qui peut résulter de méga, méga acteurs.
On refera une émission pour en parler, je vous le promets.
La dernière chose qui est vraiment cruciale, c'est que les pays qui ont un excédent commercial ont plus d'épargne qu'un investissement. Donc il va falloir qu'on renonce à notre excédent commercial.
Merci Jérôme Krill, Éric Monnet et Jezabel Coupé-Souverain d'avoir participé à cette émission. Ah.